Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de succès où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes et Histoire de mecs où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois pour la deuxième fois Ben Mazué, dont l'album Paradis est sorti il y a quelques semaines. Si vous suivez Histoire de Daron depuis un bail, vous savez sans doute qu'on avait fait un premier épisode avec Ben il y a 3 ans, au tout début du podcast. Depuis, sa situation a bien évolué puisqu'il s'est séparé de la mère de leurs enfants il y a 1 an et qu'il est devenu papa 1 semaine sur 2. La séparation et cette nouvelle vie prennent tous les deux une grande place dans ce nouvel album et on se pose 1 heure tous les deux dans son studio à la cool pour en discuter. Merci d'avance pour votre écoute. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous et prenez le temps de mettre 5 étoiles et un cool commentaire sur Apple Podcast s'il vous plaît. C'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. On est avec Ben Mazué. Bonjour.
Salut Fabrice.
Ça fait 3 ans qu'on a fait notre premier épisode ensemble, l'histoire de Daron.
C'était en octobre 2017.
Octobre de... Putain mec, tu te souviens... comment tu te souviens? Bah, c'était la sortie de...
Ouais, d'une... exactement.
de ton album. Donc 3 ans plus tard, tu sors ton nouvel album,
ouais,
qui s'appelle Paradis.
Ouais.
On va peut-être parler un peu de ce que c'est que le paradis.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens, mais on avait une discussion juste avant que tu partes.
À La Réunion?
Ouais.
Ah non, je me souviens même pas. Discussion tous les deux en privé.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on disait?
Que tu me disais que c'était un peu ton... C'était... T'avais envie de partir là-bas, en fait, et que tu trouvais que c'était cool de, justement, changer un peu de Paris et changer d'existence, quoi, changer de vie.
Ouais, l'exil, quoi.
L'exil. Carrément. Le divin exil.
Ouais, bah ouais, c'est ça. tu vois, c'est vrai que l'exil, il y a quelque chose de très grisant là-dedans. D'abord, parce qu'il faut fermer la porte de ta vie précédente. Rendre les clés de la maison que tu loues, vendre la voiture, tu vois, vendre les meubles, enfin, tu vois, vraiment faire le vide pour finalement te retrouver avec 4 billets d'avion et 4 valises. Et quand t'es parent, avoir aussi peu de choses à t'occuper, c'est assez rare. Avoir autant de liberté, se sentir aussi libre, c'est vraiment rare, c'est super précieux. C'était un moment extraordinaire de ma vie. J'ai adoré. Vraiment adoré ce mois de décembre qui a précédé le départ où on avait presque plus rien, plus que des billets d'avion pour partir. Putain, c'était vraiment grisant, c'est le bon mot. Ouais.
Ça s'est bien passé là-bas?
Oui, ça s'est super bien passé. Ouais, c'est, enfin, il y avait en tout cas l'expérience en elle-même de partir de l'exil, c'est une expérience que je recommande à fond. Après, mon expérience à moi, elle est à moi, elle a ses singularités, mais je crois pas qu'on regrette. Jamais ce genre d'expérience. Non, je crois pas. Par contre, on part avec ses problèmes. C'est ça qu'il faut se dire.
Ouais. Est-ce que c'était, avec le recul, une façon de t'éloigner de tes problèmes? Et tu te disais peut-être qu'ils allaient pas, te suivre? Ils allaient rester à Paris?
Je crois pas, parce que, en fait, mes sœurs, ma famille est assez nomade. J'ai vraiment une famille qui a beaucoup fait ça. Beaucoup d'exil, qui est parti beaucoup. Et donc mes sœurs, elles m'ont quand même beaucoup dit qu'on partait avec ces problèmes, qu'il y avait plein de gens qui fuyaient leurs problèmes et qui les retrouvaient en arrivant là où ils allaient. Donc je savais que je partais avec mes problèmes. J'avais pas peur de ça. En revanche, ce dont j'étais sûr, c'était que faire un projet, ça soude des gens, ça soude une famille. Quand tu parles à tes enfants et que tu leur dis et si on faisait ça et que c'est un grand projet de famille. C'est incroyable l'adhésion que tu peux recueillir d'eux. Et moi, je me souviens très bien, quand j'avais 10 ans, on était en voiture dans la Fiat Panda de mes parents. On rentrait de chez mes grands-parents qui étaient dans le Var à l'époque. Et mes parents devant dans la voiture qui nous disent à tous les trois derrière, est-ce que ça vous dirait qu'on aille vivre à Paris? Et on se disait, ouais, ça nous dirait carrément. Et puis on a fait ce projet tous ensemble. Et je me souviens de cette excitation, c'était incroyable. Et donc, c'est vraiment, ça soude. Ouais, il faut faire des beaux projets comme ça en famille. C'est top.
Et t'as la sensation que tes fistons ont vécu la même chose? Donc, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, écoutez le premier épisode avant d'écouter celui-ci, parce que je vais faire comme si vous l'aviez déjà écouté. Hein, sinon, ça va être chiant. Je vous mettrai le lien dans les notes, etc., etc. Mais parce que donc, t'as deux fils.
Ouais.
Qui avaient 5 et 8.
On va quand même faire un petit previously.
Voilà.
Alors, previously, dans Histoire de Daron, j'ai deux enfants, deux garçons. Un de 6 ans, un de 8 ans. Et ben c'est tout, donc ça va en fait, finalement. Enfin, vous avez tout écouté. On peut y aller. Donc j'ai deux garçons de 6 ans et de 8 ans qui ont beaucoup aimé cette parenthèse, cette expérience, ce moment-là, bien sûr. Ouais, c'était vraiment, vraiment génial. Et puis je pense qu'ils voyaient aussi à travers nos yeux. C'est-à-dire que quand ils voient des parents qui sont en train de vivre quelque chose de fort et de bien, bah c'est aussi ils le vivent comme ça.
Et toi, en tant que père, dans ton expérience de paternité, ça t'a amené quoi justement de
cette expérience là
ouais, au-delà du fait de partir une fois que vous y étiez.
Bah je sais pas si c'est le fait d'être là-bas ou si c'est juste des enfants qui grandissent et qui donc commencent à s'enrichir à la panoplie des humains qui sont en train de devenir, est en train de se garnir, donc ils deviennent de plus en plus intelligents, intéressants. Intelligent, c'est pas le bon mot, mais intéressant. Ils ont de plus en plus de choses à dire à table. Moi, je suis quand même vachement dans le verbe. L'infraverbal, c'est pas mon truc, donc tout ce qui est bébé, etc., j'arrive pas vraiment à avoir cette communication géniale qu'ont certaines personnes avec les bébés. Moi, j'ai besoin du mot, donc là, quand les mots arrivent, je m'éclate, donc j'ai vraiment passé des moments vraiment exceptionnels avec eux. Puis quand même on a vachement levé le pied sur le boulot, donc du coup on était présent pour eux. On a fait plein de projets, on allait beaucoup marcher, j'en parle beaucoup dans l'album, mais en gros à La Réunion il y a quand même un culte autour de la marche parce qu'il y a beaucoup de montagnes et du coup très régulièrement en fait ce qui se passe c'est que le week-end souvent les Réunionnais ils partent marcher, ouais, voilà, ou même juste pique-niquer en montagne ou au bord de la mer, tout ça en famille. Donc il y a vraiment, la famille, c'est super central. Donc on partait avec 5, 6, 8 familles. On allait marcher toute la journée et puis le soir, on se retrouvait dans un gîte où on campait et puis le soir, c'est la fête. Vraiment, c'est génial. Tout le monde, tous les adultes discutent, tous les enfants jouent. On oublie un peu qu'il y a des enfants. Du coup, ils peuvent se coucher à pas d'heure. Il y a quelque chose de l'ordre de la fête pour tout le monde, que j'ai jamais vraiment retrouvé ici en ville, tu vois. Et puis après, le lendemain matin, tout le monde avec une petite gueule de bois quand même, redescend à leur voiture, tu prends ta voiture. Il faut savoir qu'en plus, les montagnes sont assez hautes en altitude, donc il fait froid, donc tu dors bien, tu vois. Tu redescends, t'arrives en bas, c'est les tropiques. Et puis tu te fais ton dimanche soir dans le lagon, tu te baignes, tu regardes le soleil se coucher. La qualité de vie, c'est... je te jure, c'est pas mal, quoi.
T'as pas trop posté de photos sur ton Insta. Je pense que t'aurais pu vraiment en rajouter 4 couches, si tu veux. Mais à chaque fois, c'était... je me disais, ok, ça a l'air d'être bien.
Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours un peu de mal avec les gens qui postent leur bonheur.
Ouais.
Seulement leur bonheur sur Instagram. Moi, j'aime bien rire sur Instagram, enfin, voir les posts qui sont drôles, ou un peu poétiques, ou un peu problématiques, mais vraiment le bonheur pur. Parfois, il me provoque un truc à l'intérieur de genre, pourquoi t'as tant besoin de me parler de ton bonheur, tu vois? Donc, c'est vrai que c'est assez rare que je poste du bonheur pur. Soit parce que c'est rare que j'en vive, en vérité, mais.
Non, ça avait l'air d'être sympa, cette période.
Mais en tout cas, ouais, je te dis, ce familialement parlant, c'est quelque chose de, parce que tu me demandais ce que j'ai vécu avec les enfants, il y a eu ça. Et puis j'y suis retourné après. Je suis retourné avec les enfants. On a fait une marche de 5 jours dans les montagnes réunionnaises, tous les 3. Juste moi avec les enfants. Et ça, c'était vraiment génial parce que d'abord, pour moi, c'était un gros défi de marcher seul dans les montagnes parce que j'ai pas du tout de sens de l'orientation. Donc je suivais toujours quelqu'un habituellement. Et tu sais, un mec, il y a toujours un guide, enfin un gars qui t'explique avec son doigt, là, il te montre des montagnes. Des repères qui lui paraissent complètement évidents et toi, mais te sont tout à fait étrangers, avec des noms incroyables. Et il te dit, bon, voilà, ça, c'est les trois corrides. Tu vois, puis juste derrière, il y a le lac du Montauban. Puis après, tu descends un peu dans le Goulet. Tu comprends jamais rien. Juste, tu le suis, tu kiffes, en fait. Voilà, il n'y avait personne à suivre. Donc, j'ai organisé toute la balade moi-même. Avec les enfants qui étaient hyper solidaires. Et ça, c'était vraiment exceptionnel d'y retourner. Parce que j'ai senti vraiment l'engouement, tu vois, la graine que j'avais plantée un peu à l'intérieur de mes enfants qui étaient en train de pousser. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment génial.
C'était, est-ce que c'était après votre séparation?
C'est ça, ouais.
C'est ça?
Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que après, en rentrant, donc on n'est pas rentré en couple.
Ouais.
Et après,
il y a une chanson dont t'en parles.
J'en parle pas mal. Je parle pas mal de la rupture dans mon album.
Ouais.
Alors après, je parle de la rupture, mais aussi parce que, pas seulement parce que ça m'est arrivé à moi, aussi parce que c'est quelque chose d'assez contemporain. Enfin, d'assez commun chez mes contemporains, on va dire. Donc, j'ai pu le voir aussi autour de moi. Je crois que d'ailleurs, quand on écrit avec ce qu'on vit, mais aussi avec ce qu'on voit, et aussi avec ce qu'on imagine être une vérité. On essaie d'être le plus sincère possible, mais pas forcément d'être le plus vrai. Donc, il y a, dans l'histoire que je raconte, bien sûr, beaucoup de moi, mais aussi d'autres éléments qui m'ont paru être une vérité de la rupture. J'ai une grande sœur qui elle-même s'est séparée. Je connais des gens assez proches de moi qui se sont séparés, donc c'est vraiment c'était un thème que je voulais aborder. Et puis surtout, je voulais aborder le fait, enfin, de dire que une histoire d'amour, elle n'est pas réussie parce qu'elle dure pour toujours. En fait, elle peut être très réussie et se terminer. Et ça, ça c'est assez nouveau quand même, je trouve, dans le paysage de nos sociétés modernes. C'est ces gens qui ont vécu des histoires d'amour réussies qui se sont finies. Il y a ces gens-là maintenant dans le paysage de la société moderne. Comme il y aura bientôt, j'espère, beaucoup plus de gens qui seront en couple et qui ne feront pas d'enfants. J'en parle aussi un peu dans l'album.
Ouais.
Chanson qui s'appelle Parents,
ouais.
Qu'on a faite avec un groupe qui s'appelle MPL. Je ne sais pas si tu connais Ma Pauvre Lucette, super groupe.
Ben non, je ne connaissais pas.
Hyper fort. C'est des mecs assez fantasques qui ont une écriture vraiment sublime. Un groupe, pour le coup, je dis des mecs, mais il y a des filles dedans. Hein. Mec pour dire mec et fille, quoi.
Ouais.
Et eux, je les avais contactés pour qu'on fasse une chanson ensemble. Moi, je voulais chanter les mots d'un autre. J'aime bien ça. Je passe toujours, enfin, je suis en train de passer complètement du coq à l'âne, mais tant pis.
Non, mais vas-y, je te suis.
Mais c'est vrai que quand tu chantes les mots d'un autre, quand tu interprètes seulement et que tu chantes pas ce que t'as écrit, tu peux, à travers ce que tu chantes, un peu dire, vous avez vu comme c'est beau? Parce que
oui.
C'est pas toi qui l'as écrit. Si c'est toi qui l'as écrit, c'est un petit peu gênant de dire, vous avez vu comme c'est beau. C'est un petit peu prétentieux. Tu dis, vous avez vu comme c'est moi, mais pas vous avez vu comme c'est beau.
Ouais.
Donc, je l'avais fait sur l'album précédent avec La mer est calme, une chanson qui s'appelle La mer est calme,
ouais.
Qui avait été écrite par un type qui s'appelle Vincha et Laurent Lamarca. Et donc là, je me disais, bah, je vais chanter une chanson de ce groupe-là parce qu'ils sont vraiment super forts et on a cherché un thème ensemble. Finalement, on l'a un peu co-écrite. Et donc, le thème, c'était de parler de ces gens sereins qui vont bien, qui n'ont pas de problème de tendresse ni de parentalité, j'allais dire, mais qui pour autant n'ont pas d'envie d'enfant. Parce que pour eux, la famille, c'est plein de conjugaisons. Et ça, je trouve qu'aussi, il faut qu'il y ait de la place pour ces gens-là dans notre monde. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est quand même très marginal de ne pas avoir d'enfant. On entend toujours, et vous, c'est pour quand? Et puis alors, nous, on est des garçons, c'est moins pressurisant, mais... Chez les filles, c'est encore plus puissant.
Il y a l'horloge biologique, tic-tac,
c'est
qui,
ça. Et
qui tourne.
L'horloge biologique est aussi une forme de pression, j'ai l'impression, sociétale.
Sociale, oui.
Ouais. Sociale sur les femmes qui, si elles ne sont pas mères...
Elles ne sont pas complètes.
Ah bah voilà. Alors peut-être que les garçons, peut-être un peu moins. Mais enfin, ça existe aussi. Hein.
Bah, je pense que c'est un peu moins quand même.
Un peu moins.
Ouais.
Ouais, c'est, ça existe. Mais ça, je pense que ça doit exister quand même un peu.
Donc on appelle ça les child free, tu sais,
ça s'appelle comme ça.
Les enfants, les gens qui veulent pas d'enfants justement. C'est un terme, c'est un mot. Ça s'appelle les child free, donc qui sont libres des enfants. Et je pense que c'est la première fois que j'entends une chanson sur le thème. D'ailleurs, j'avais cru voir un post sur ce compte Insta qui s'appelle Bordel de mer. Je sais pas si tu l'as vu.
Ouais.
Qui est tenu par une meuf géniale qui s'appelle Fiona Schmidt. Je lui passe le coucou parce que je sais que de temps en temps elle écoute Histoire de Daron. Et qui pointait justement le fait que c'est très rare d'entendre une chanson parler du thème, en fait. Et donc, c'est cool que t'en aies parlé.
Je te dis, c'est quand même vachement poussé par ce groupe MPL qui ont vraiment pratiquement tout fait sur le morceau. Moi, j'ai rajouté 3-4 mots qui me tenaient à cœur. comme la famille s'est plainte de conjugaison. Parce que moi, je me souviens en tant qu'enfant que des figures parentales, j'en avais pas seulement à travers mes parents, en fait. Un peu un parrain avec qui je m'entendais super bien et qui m'aidait à comprendre des choses. Parfois des
coachs d'équipe, ça peut être des coachs
ouais, c'est
ça. Tu fais du sport un peu.
Ouais, parfois même des personnages.
Prof de musique.
De fiction.
Ah oui.
Tu vois.
Ouais.
Moi, j'ai été aidé. C'est ridicule, peut-être, mais je sais pas, quand j'avais 8 ans, j'étais un énorme fan de Bruce Willis, tu vois, John McClane, là, de Die Hard. Là, il était un peu. Il devait un peu compléter une sorte de figure parentale à mon âge de 8 ans, tu vois, qui était tout petit. Donc, je pense que tu peux, donc, en tant qu'adulte, sans avoir d'enfant, faire figure aussi de parents auprès d'autres gens, comme par exemple tes neveux, tes nièces, tes filleuls, et vivre plutôt bien, en fait, une famille qui serait plus élargie, qu'on pourrait plus qualifier de tribu, au final, que ces familles très nucléaires qui sont aujourd'hui légion. C'est un peu l'idée de cette chanson, et peut-être des Child Free, je me rencarde, mais globalement, oh là, tu vois, je me rencarde pas du tout assez bien.
Un nouvel univers pour tous les gens qui veulent pas d'enfants, et c'est cool parce que je pense que c'est aussi une parole qui se libère, tu vois, parce que comme tu dis, y a plein de paroles qui se sont libérées, la parole des, tu sais, il y a eu tout ce mouvement des mères qui parlent du postpartum, c'est, je sais pas si tu suis trop ça, mais énorme truc, énorme hashtag sur internet, etc. Et je trouve que le fait qu'on libère la parole autour des child free et des gens qui viennent juste dire bah en fait moi je veux pas d'enfants et je vis très bien et c'est pas pour autant que t'es obligé de me coller une étiquette de personne pas complète quoi tu vois.
Non c'est ça ou pas tendre.
Ouais.
Ou pas qui veut pas qui n'a pas d'amour pour les enfants. Mmh. C'est aussi ça tu vois. C'est pas genre juste je me centre sur moi et en fait il y a que moi que j'aime et en fait je vais aller jusqu'au bout de moi parce que moi c'est moi tu vois. Tu peux être très ouvert et très tendre et justement, et puis en plus, on dit pas, mais quand, le jour où tu deviens parent, tu deviens beaucoup moins disponible en tant qu'enfant, toi, pour tes propres parents. Et ça, c'est ok, c'est tout à fait entendu. Tu n'as pas le temps, mon chéri, c'est normal, tu as des enfants, tu vois. Bah non, enfin, je sais pas. Ça peut être aussi normal de continuer à être très présent en tant que frère, en tant que fils, ouais. Tu vois, ça, c'est aussi la famille, ça. Donc, attention, hein, je dis pas du tout que je regrette une seule seconde le fait d'avoir fait mes enfants.
Je n'ai pas dit ça.
Non, mais moi-même, quand j'en parle, j'ai l'impression de faire un plaidoyer contre mes propres enfants, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas.
Mais je pense aussi que c'est ça qui a empêché le fait de venir dire, depuis des années, des millénaires, qu'en fait, être parent, c'est un job pas facile, et c'est un job même très compliqué. C'est que dès que tu oses venir dire ça, tu peux avoir peur en tant que parent que... t'es en train de dire que tu regrettes d'avoir eu tes enfants, alors qu'en fait, pour moi, les deux sentiments peuvent coexister très bien, quoi.
Exactement, exactement. Et puis, surtout, c'est donner de la place à ces child-free, quoi. Une place qui n'est pas marginale. Voilà, ça c'était pour la petite interlude sur le morceau parents.
Donc tu disais que vous êtes rentré pas en couple.
Ouais.
Vous êtes séparés là-bas avec ta femme et donc la mère de tes deux enfants. Donc aujourd'hui, tu vis une vie de papa divorcé.
Ouais, exactement. Et c'est tellement large comme question que je te propose de préciser.
C'est une question du tout.
Oui, je vis ça. Ouais, c'est très particulier. C'est très singulier. Il y a plein de choses qui sont très singulières.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je pense que c'est un équilibre d'abord à trouver, qui est très particulier parce que tu n'as plus tes enfants en permanence. Donc, le moment où tu les as, tu as l'impression que tu dois passer du temps de qualité avec eux. Et donc, ce temps de qualité, il peut faire de toi quelqu'un de plus, par exemple, facile, plus gentil, qui passe plus sur des détails peut-être plus avec plus de cadeaux avec des soirées qui sont plus la fête parce que justement tu les vois moins souvent et ça je pense que c'est peut-être une erreur dans laquelle il faut pas un truc dans lequel il faut pas tomber parce qu'en vérité tes enfants il faut que quand tu les as il faut que ce soit la vie normale aussi pour eux et pour toi faut pas que ce soit systématiquement la fête sinon justement il y a ce c'est un syndrome un peu je trouve tu vois donc il y a ce premier truc là. Il y a l'idée de se reconstruire en tant qu'adulte, qu'amoureux, que...
Qu'adulte non parent. Enfin,
voilà,
parce
non
que
parent,
une semaine sur deux, t'es donc voilà. Pas papa.
Exactement. Donc il faut aussi exister sans. Exister sans, c'est pas non plus hyper facile parce que il te manque. Enfin, si vraiment tu vis que pour eux et par eux, quand ils sont plus là, tu n'es plus rien. Donc c'est aussi une catastrophe. Mais si tu vis vraiment trop bien sans, après t'as une vie sans eux qui est tellement cool que du coup quand ils arrivent, tu changes trop de vie. Donc il y a vraiment cet équilibre assez difficile à trouver entre le moment sans et le moment avec. Qui, je pense, est un exercice sur le long terme. Faut se laisser le temps, je pense. Se laisser le temps d'apprivoiser ces techniques-là, ces méthodes-là. Et pas s'en vouloir d'un peu se planter. Tu vois, tout à l'heure, il y a deux secondes, là, je te parlais du côté la fête et tout. Mais je pense que pour débuter, c'est pas mal. Parce que quand même, tes enfants, ils sont un peu déstabilisés. C'est pas facile pour eux, donc... C'est quand même cool aussi d'avoir des contreparties sous forme de sneakers ou de films très tard alors qu'on est mardi soir.
Ouais.
Ce genre de choses, c'est pas très grave. Ou de vélo tout neuf un samedi alors qu'il n'y a pas du tout d'anniversaire. Ce genre de petites choses qui sont des trucs très de parents divorcés qui débutent.
Ça fait combien de temps maintenant?
Ça fait un peu plus d'un an.
Ok.
Ouais. J'y suis pas encore, si c'est ta question.
À
l'équilibre.
Parce que, on en parlait juste avant, mais j'entame presque ma première année. Et en plus, il y a eu le confinement, mais je suis un week-end sur deux, moi, donc c'est très très peu hein, par rapport à toi. Mais je galère encore, hein, tu vois, de trouver le bon rythme, en fait.
Ouais, c'est ça.
J'ai vraiment cette sensation que, effectivement, quand elles sont là, à ce moment-là, il faut tout donner, quoi. Tu vois,
ouais.
C'est vraiment le moment où il faut.
Ouais. Et en même temps, si tu donnes tout, c'est trop, la charge est trop forte.
Vie.
Mais ouais,
voilà.
Exactement. Mmh. Et tu te mets à la place de tes enfants, ils comprennent pas pourquoi autant, tu vois. Donc c'est vrai que c'est ça le truc un peu technique. Après, je trouve que ce qui est cool, c'est que on arrive quand même après des générations de divorcés, d'enfants divorcés, qui ont bien morflé, on arrive avec toute cette expérience-là sur la question de la communication avec notre ancien conjoint, la communication avec nos enfants, tout ça c'est quand même bien documenté. Je pense que des enfants divorcés dans les années 70-80, c'est quand même très très différent de 2020. Et aujourd'hui, on sait faire pour parler, pour savoir débusquer un début de problème s'il y a, savoir que être en bon terme avec son ancien conjoint c'est essentiel. Donc j'ai l'impression qu'on fait de notre mieux quand même pour que ça se passe comme ça. Après, c'est les aléas de la vie, tu vois. Mais je trouve quand même que ça, on a bien compris ça, nous, quand même.
Tu veux dire notre génération?
Ouais, notre génération.
Ouais, je suis d'accord.
Carrément. C'est quand même de plus en plus rare ceux qui disent, tu diras à ta mère que c'est vraiment une... Tu vois?
T'en as pas autour de toi?
Ah, si, si. Alors, j'ai autour de moi des gens qui sont séparés et en conflit. Très, très gros. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont ils ont conscience que du préjudice que ça peut porter à leurs enfants et donc du coup ils prennent quand même vachement sur eux vachement plus que oui sur
ils s'épargnent un peu plus leurs enfants ça tu...
Ouais, c'est ça. Ouais, carrément.
Ils les prennent pas à partie.
Bah en tout cas ils essayent. Après bon, de toute façon ça transpire d'eux, tu vois. Puis les enfants c'est quand même toi en mieux hein, globalement, donc ils te grillent, tu vois.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Qu'est-ce que tu as la sensation d'avoir appris de cette année de père divorcé, toi, par rapport à ton ancien toi de père pas divorcé?
Sur ma parentalité?
Ouais.
Ou en général sur...
Sur ta parentalité et en tant qu'homme.
Attends, je scanne là, tu vois, je fais un peu le tour bien. De ce que j'ai appris. Tout n'est pas hyper fun, je dois dire. On peut
faire le pas fun aussi, hein, si tu veux.
Mais du coup, c'est pas vraiment de l'apprentissage. Disons que c'est quand même une sacrée souffrance, on va dire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu ça quand même comme un... C'est quand même une bonne grosse traversée d'un sacré désert. En tout cas, pour moi, parce que je sais qu'il y a d'autres couples, d'autres parents qui n'ont pas du tout vécu comme ça. Mais il y a quand même ce truc-là. Après, c'est aussi énormément de fierté.
Qu'est-ce qui te fait souffrir ?
Je sais pas, je pense que le deuil, en fait, le fait de faire le deuil d'une histoire, le fait d'avoir mis le mot fin sur une histoire, c'est, il y a des... Mais d'ailleurs, hein, j'en parle un peu, je pense, dans l'album, c'est... T'as tout un moment où, en fait, tu traverses une grande tristesse, puis un jour, tu te réveilles, et puis, en fait, rien n'a changé, mais ça y est, tout est bien mieux. C'est le début des jours heureux. Et là, je suis en train de m'autociter. Enfin, attention à ça.
En même temps, c'est beau, ce que t'as écrit, tu vois, donc.
C'est vrai qu'il y a ça. Et donc, cette traversée-là, et ensuite, il y a la grande fierté, ouais. La fierté de t'en sortir tout seul, de gérer tout seul, de devoir rien à personne. D'avoir besoin de dire merci à personne et pardon à personne. Alors ça, c'est vraiment super cool. Ça, c'est vraiment super cool. Le rapport à tes enfants, il est extraordinaire parce que du coup, il n'est que de toi à eux. Donc, tu n'as pas de compromis à faire. Tu es dans une vérité qui est rare. En plus, moi, je suis enfant de pas divorcé, donc je ne connais mes parents qu'ensemble, je veux dire. Donc, mes parents, c'est mes parents. Et là, tout d'un coup, ce niveau-là de proximité avec mes enfants, je pensais pas l'atteindre. En fait, c'est quand même exceptionnel. La complicité qu'on peut avoir de par le fait qu'on se voit, que je les vois seuls avec eux. Donc, il y a ça, je me sens quand même assez fier, ouais, quand je me lève le matin, une heure avant qu'eux se réveillent pour vider une machine, faire deux, trois papiers, me renseigner pour l'escrime du dernier, je me dis, c'est bien, il y a de quoi être un peu fier, ouais, c'est clair. Il y a quand même beaucoup de fierté qui ressort de ça. C'est dur, mais t'es fier.
C'est un truc que tu faisais pas du tout avant quand vous étiez en couple, cette histoire de se retrouver à trois avec tes enfants. C'est un truc.
Je croyais dire vider les machines.
Non, je te dis ça parce que moi aussi c'est un truc que j'ai découvert et avec le recul, je me suis dit mais t'es con, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt quoi.
Je pense qu'aussi non, t'as raison. En fait, il faudrait le faire aussi quand on est à deux parents. Mais quand même. C'est quand même génial d'être deux parents. Enfin, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique que tu n'as pas forcément envie de retirer ce moment-là pour le vivre seul avec tes enfants. C'est tellement cool aussi d'être deux parents, donc tu le vis pas. Mais ce que tu réalises pas, c'est qu'en fait, tu n'es que ton identité de couple dans ces cas-là. Tu n'es pas ton identité à toi tout seul. Et donc, c'est vrai que c'est assez enrichissant aussi d'être son identité à soi tout seul.
La dynamique est tellement différente en plus.
Ouais, la dynamique est très différente. Et ça, les enfants, ils le comprennent très bien. Parce qu'ils sont très différents quand ils sont chez leur père ou chez leur mère. Ils comprennent que les règles ne sont pas les mêmes. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Les règles, les détails de règles. Hein, parce que l'essentiel, c'est le même des deux côtés, je pense, tu vois. Les grandes lignes, je veux dire.
Faut espérer.
Oui, voilà. C'est des trucs qui changent sur les menus, ou, tu vois. Savoir si tu prends la douche ou le bain, ou ce genre de petits détails, mais... L'essentiel de l'éducation, c'est quand même un truc qui continue à se faire en duo, en équipe, tu vois, je pense.
D'où le fait de continuer à communiquer.
Exact, ouais, d'où le fait, en tout cas sur ça, ouais. Même si tu peux aussi expliquer à tes enfants que là, bah voilà, là pendant un certain temps, papa et maman, ils sont fâchés, mais ça va s'arranger, c'est la vie. Ça n'empêche pas qu'ils seront des parents présents et utiles et qu'ils sont une super équipe, mais comme vous, entre frères et sœurs, parfois vous fâchez, bon bah là on est fâchés. Tu vois, il faut peut-être aussi pas mettre trop de drame là-dedans et dire ça existe un peu, ça passera, vous inquiétez pas, vous n'en faites pas une affaire d'État. Je pense que c'est important aussi de dédramatiser l'idée que parfois les parents se fâchent, quoi. Je pense. Moi, c'est comme ça que je le présente.
je comprends. Et toi, en tant qu'homme, tu vis comment cette année divorcée?
C'est assez vertigineux, en fait. Mais je pense que c'est qu'à chaque fois que tu vis un grand virage de vie, en fait. Le divorce, comme le mariage, comme les deuils, comme les enfants, comme même changer de voie professionnelle, tout ça, c'est toujours assez vertigineux. Et les grands virages, moi, je trouve que ça commence souvent par de la solitude. De toute façon, les nouvelles vies, ça commence souvent par de la solitude. Donc, et c'est bien. C'est très bien comme ça. La solitude, c'est sous-côté, je trouve. Il y a des moments très bien où il faut être seul, et à contrario, des moments bien pourris où tu es accompagné. Donc il faut complètement accepter la solitude. J'ai mis un peu de temps, moi, à comprendre ce truc-là.
À accepter.
À l'accueillir.
À l'accueillir, voilà. Ok.
Et au départ, cette solitude, elle me brusquait un peu parce que je me disais que je pouvais plus m'accrocher à qui que ce soit, en fait. Personne pouvait me comprendre et puis que personne n'était présent. Et donc il y avait des moments de grande solitude que j'ai eu du mal à accueillir. Après, une fois que j'ai accueilli cette solitude, que j'en ai fait mon parti en me disant, mais en fait, c'est normal, c'est le début d'une nouvelle vie, les nouvelles vies commencent par de la solitude. Et ben, je l'ai plutôt bien vécu. Et c'était assez agréable, c'est aussi pourvoyeur de rencontres. Tu te crées un nouveau tissu social qui est assez cool. Et puis moi, je te dis, mes enfants grandissent et ils deviennent des humains, comme je te disais tout à l'heure, de plus en plus intéressants. Et donc, ils deviennent des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Beaucoup, tu vois. Quand je sais qu'ils arrivent le vendredi, j'ai juste envie de bouffer avec eux, en fait. C'est tout ce que j'ai envie de faire. On va rigoler. Et en plus, ils sont très clients de mon humour. Donc,
c'est une bonne nouvelle.
Super public. Voilà. Du coup, je fais beaucoup de blagues avec eux. On regarde beaucoup de films. Je suis très... C'est ma littérature à moi, tu vois, les films. Donc, je sais qu'avec leur mère, ils sont beaucoup plus livres. Donc, du coup, en plus, je sais que de ce côté-là, il n'y a pas de problème.
Ils sont gérés.
Voilà. Donc, moi, on regarde beaucoup de films. Je trouve ça super agréable de regarder des films avec des enfants. C'est vraiment une manière de transmettre que je trouve géniale. Il y a parfois, tu te plantes complet, mais il y a des fois où, par exemple, là, on a essayé de regarder Jurassic Park.
Ah oui.
Mais beaucoup trop petit.
Oui,
le petit, elle est tombée.
Quel 6 ans ?
Ah ouais, non.
Ouais, 6 ans, c'est chaud.
On a commencé, on a fait la première scène et il m'a dit faut s'arrêter tout de suite. J'ai dit on a tenté. On fera pas. Par contre, là, on.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Regardez Cyrano de Bergerac, ça marche hyper bien.
Ah ouais?
En plus, t'as l'impression de faire un peu un instant culture, hein, ouais. Parce que c'est quand même pas mal. Ouais, hyper bien. Et là, on s'est fait La Marche de l'Empereur hier.
Oh oui, trop bien.
Ouais, hyper bien. Mais j'ai quand même une question sur La Marche de l'Empereur qui me taraude un peu. Il doit y avoir une réponse. Hein. Mais c'est pourquoi ils vont faire leurs œufs si loin de l'eau? Pourquoi ils se font chier à marcher 40 jours pour aller faire leurs œufs? Tu te souviens un peu du film?
Oui, bien sûr.
Donc ils marchent 40 jours pour aller se retrouver tous ensemble et faire leurs œufs, et après ils doivent remarcher 40 jours pour aller se baigner et récupérer la bouffe. Pourquoi pas faire leur campement à 20 mètres de l'eau?
Je t'avoue que je sais pas, après...
Peut-être les prédateurs.
J'allais dire les prédateurs, j'allais dire aussi peut-être la température, qui est peut-être moins...
C'est hardcore quand même. Hein.
Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. Mais c'est vrai que c'est une question que...
On pourra poser la... Ouais, on pourra demander à...
À la commu, commu d'histoire de Daron.
S'ils sont d'accord pour répondre à cette question... Parce que j'ose pas trop encore en parler aux enfants pour pas qu'ils me disent « Mais il est nul en fait le film du coup, parce que c'est vrai que s'ils se mettaient à 5 mètres de l'eau, bah, ils auraient pas tous ces problèmes. »
C'est pas le film qui est nul, c'est les...
Qu'est-ce que c'est dur quand même, la vie de Manchot Empereur, on en parle pas souvent. Mais...
C'est là que tu te rends compte que nous on est pas mal. Hein.
Ah ouais, la vache. Moi j'ai... Okay. J'avais oublié ce film. Hyper bien avec la musique d'Émilie Simon.
Ouais.
Mortel, la voix de Romain de Boringer. Ouais. De Charles Berling, c'est très très beau.
On avait parlé dans le premier épisode du fait de les sensibiliser à la musique, tu sais, où tu disais que bah, tu voulais pas trop et que c'était un truc que tu les laissais faire. Comment ça a évolué depuis 3 ans? Est-ce que ça avance un peu sur ce sujet-là ou pas?
Ouais, carrément. Ils écoutent beaucoup de musique, alors j'aimerais bien te dire que c'est malgré moi et que c'est comme ça, que ça leur plaît et que c'est juste
mais non.
Un éveil parmi d'autres et qu'ils auraient pu aussi aimer autant la peinture. Mais non, c'est sûr que ça doit avoir clairement un rapport avec leurs parents. À la fois leur mère et moi, on écoute beaucoup de musique, donc ça marche sur eux. Du coup, j'ai l'impression que ça nous fait écouter de la musique peut-être plus familiale. Du coup, qui peut marcher un peu pour eux et pour nous. Et ils ont déjà des passions, tu vois. J'en ai un qui est vraiment celui de 8 ans. Il est complètement passionné de Big Flo et Oli. Tu vois, c'est vraiment il connaît tout par cœur. C'est touchant, tu vois, de voir un enfant qui se met à être passionné d'une musique. Il adore aussi Nekfeu, tu vois. Alors ça, c'est plus étonnant parce que c'est moins grand public. Ouais, bah moins enfant, ouais.
Oui, c'est ça.
Les textes sont beaucoup plus adultes. Je pense pas qu'il comprend tout. Je pense même qu'il comprend pas grand chose. Je pense qu'il est surtout impressionné par le flow du mec, en fait. Et aussi par le fait qu'il plaît beaucoup à ses parents. Donc ça, tu sais, moi je me souviens aussi quand tu t'écoutais des trucs, tu vois, les parents qui trouvaient ça génial, tu te dis, attends. Ça doit être génial. Donc ça doit jouer. Le plus petit, lui, il adore Aldebert.
Ok.
Les deux, on aime tous Aldebert dans la famille. Ouais, ouais. Il y a vraiment un truc avec lui. On est allé le voir plein de fois en spectacle. C'est les premiers spectacles que
t'avais pas fait un truc avec
moi,
lui.
Moi, j'ai chanté avec lui, ouais. Et ça continue à marcher, ça. Parce que c'est pas à proprement parler de la musique pour enfants. Mais en même temps, c'est très famille, ça fonctionne très bien. Nous, on écoute beaucoup ça. Il y a Gims,
ah oui, bah,
ultra fan, connu par cœur.
Alors toujours, c'était déjà Gims.
Ouais, voilà, ça continue. De plus en plus, en fait. Bon, là, il a pas sorti son album parce que c'est confinement, mais quand il va le sortir, je pense que ça va faire très mal. Est arrivé là récemment sur le devant de la scène d'Adju.
Ah oui.
La chanson de Dajou et Soul King, là, Melejim. Celle-là, il écoute beaucoup. Après, ce qui est difficile, c'est qu'ils aient un appareil ou une manière d'écouter la musique que à eux. Parce que, en fait, aujourd'hui, avec le streaming, tu n'as plus d'appareil à musique pour les enfants. Si tu veux, s'ils veulent écouter de la musique en stream, ils sont obligés d'utiliser une tablette ou un téléphone, enfin, un smartphone. Et tu peux pas donner, tu peux mettre dans les mains d'un enfant de 8 ans une tablette ou un smartphone en disant tu n'écouteras que de la musique dessus. C'est trop tentant. Enfin,
on avait un manche-disque, nous.
Voilà, on avait un manche-disque. Alors, on peut le faire, tu vois, on peut encore le faire, ça existe encore, tu vois. Ils en ont un même. Mais bon, ça veut dire acheter des disques, etc.
Ouais.
Alors qu'en fait, là, le champ des possibles est tellement énorme avec le streaming, et puis nous, on est abonnés. Donc, c'est ça qui est pas facile. D'ailleurs, je lance un appel aux fabricants et aux sites de streaming s'ils pouvaient nous faire un objet connecté qui ne va que sur qui ne permet uniquement que de faire écouter la musique, ça pourrait bien marcher chez les enfants de moins de, enfin, qui avant qu'ils aient un smartphone, téléphone. Enfin, voilà. Donc c'est quoi, que je sais pas quel âge on a un smartphone, 8 ans.
Bah, moi j'ai à partir de la 6e, quand elles sont allées au collège, et que donc c'est déjà tôt, hein.
Et dans les écoles, c'est quoi les études, qu'est-ce qui se dit, c'est quoi à peu près
Oh bah c'est à peu près ça, je pense. C'est à peu près la 6e, ouais. Entre 6e et 4e, quoi.
Putain, ça me paraît.
Bah, c'est tôt.
Tellement tôt.
Bah, tu verras, après, t'as la bataille contre les réseaux sociaux. Moi, c'est ma grande.
Ah ouais.
Ça, c'est ma faute, hein. Je les ai foutus sur les réseaux sociaux, mais.
Ah ouais.
Tu peux pas te battre. C'est comme, tu sais, à l'époque où t'avais les gamins qui écoutaient pas la télé. Je sais pas si. Qui regardaient pas la télé, pardon. Dans les cours de récré, ils étaient largués, quoi, par rapport. Culturellement, par rapport à ce qui se passait dans la vie.
Ils souffraient. Ouais, mais je pense qu'il regrette pas aujourd'hui en tant qu'adulte.
Bon, c'était une forme de culture.
T'as raison, mais enfin, je maintiens qu'il regrette pas.
Ben non, mais par exemple, moi, tu vois, quand j'étais en sixième, il y avait les Inconnus qui passaient à la télé. Tu
vois. Le lendemain, on parlait que de ça.
Mais bien sûr.
C'est clair, ils étaient
exclus. Et ben, les autres, ils étaient là, je sais pas de quoi vous parlez.
Ouais, c'est sûr.
Les pauvres.
Moi, j'ai un des meilleurs amis comme ça. Tu lui dis Jean-Pierre Foucault et il sait pas qui c'est.
Il sait pas.
Mais bon, est-ce que c'est grave de pas savoir qui c'est Jean-Pierre Foucault ?
Non. Mais c'est juste, effectivement, dans un truc qui est hyper important à l'âge, et notamment à l'âge ado, tu vois, de sociabilisation, c'est hyper important de connaître les codes, quoi, tu vois, sinon après t'es exclu.
T'as raison. C'est vraiment.
C'est pour dans quelques années pour toi.
Non, mais t'as carrément raison. C'est pour dans quelques années, t'as raison, mais c'est vrai que c'est excluant de totalement les empêcher. Et en même temps, c'est tellement addictif, c'est tellement prouvé. C'est aussi. Ouais, voilà. Bon. Petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes.
Merci pour cette quote.
Mais c'est vrai, c'est ma mère, elle disait tout le temps ça, mais c'est juste quand même.
T'es en train de te rendre compte?
Bah ouais, ouais. J'ai toujours entendu cette phrase, mais je la trouve vraiment vraie.
Pour reparler de cette escapade que t'as fait avec tes enfants.
J'adore que, parce que les gens savent pas, mais tu n'as aucune note en fait.
Non.
Tu viens, t'as tout dans la tête, ou alors t'improvises, je sais pas.
Bah les deux. Les deux. Mais comme toi, t'es capable de prendre ta musique et de jouer une mélodie comme ça.
Je suis pas très spontané, j'avoue. Mais bon, chacun sa technique. Hein.
Tu es spontané comme garçon.
Non, non.
Ah ouais?
Tu veux dire dans le travail?
Non, je veux dire, t'es capable de prendre ta guitare et de jouer une mélodie comme ça, tout comme t'es capable de faire tu, tu vois,
oui,
beaucoup
ça,
mieux que moi.
Oui, ça, on est tous, ouais. Mais non, mais sinon
mais
dans la
moi.
Musique, je suis pas de l'école des spontanés. À vous, je suis plutôt l'école des laborieux qui préparent, qui travaillent leur truc avant. Et j'en fais pas du tout une fierté, au contraire, je préfère être à l'école des spontanés,
tu sais,
les gens qui font des bœufs.
Les intuitifs.
Ouais, j'adore, ouais. Tu sais, genre, vas-y, prends ta guitare et hop, il vient, il joue un truc et ça marche. Un peu comme M, tu vois,
ouais.
On sent qu'il est de cette école-là, des spontanés, des gens qui font des bœufs. Moi, pas du tout, je sais pas du tout faire ça, je suis pas de cette école-là. Mais je m'accepte, hein, ça y est, c'est bon, je t'en prie. Ça va.
C'est quoi, tu penses, c'est quoi la différence c'est quoi la différence? C'est que peut-être tu t'es mis plus tard à la guitare ou à la musique, non?
Par rapport à la spontanéité?
Par rapport à M, tu vois, notamment, je pense...
Non, c'est une question d'état d'esprit, je crois.
Ouais?
Ouais, c'est vraiment,
est-ce
vraiment
que ça. C'est parce que t'as peur de rater?
Peut-être, je pense que je suis construit comme ça. Peut-être que pour moi, la spontanéité, c'est quelque chose de très intime, tu vois, de très privé.
Ah.
Donc je suis spontané tout seul. Et après, avec les gens, je préfère avoir préparé, je sais pas. Je sais pas dire exactement.
T'es spontané tout seul.
Bah, ouais, franchement, je saurais pas te dire, mais je connais plein, par contre, des gens, y compris dans la musique, qui sont pas de cette école-là.
Ouais,
tu
ouais.
vois, le directeur musical de mes concerts, qui s'appelle Robin Note,
ouais. qui est ton pianiste sur scène,
qui joue aussi des percus, qui construit les morceaux pour qu'ils arrivent sur scène. C'est pareil, c'est quelqu'un qui aime bien avoir préparé. Et si tu répètes avec lui et que tu lui demandes de, bah tiens, si on faisait ce morceau-là, on l'essaye. Il est ok, hein, mais il sera jamais plus confortable que si tu le préviens deux jours avant en lui disant, bah, est-ce que tu serais d'accord pour faire ce morceau? Il va l'écouter, il va arriver avec des propositions. Et ça va le rendre beaucoup plus à l'aise et donc heureux, en fait. Donc, je sais qu'il est comme ça et ça me va parce que je suis un peu comme ça aussi.
Tu vas voir que je vais réussir à rebondir par rapport à la paternité, mais. On avait parlé très légèrement d'être un bon père.
Mmh.
Il y a trois piges.
Mmh.
Et moi, l'un des trucs qui m'a fait peur, en fait, quand on s'est séparé avec mon ex, c'était de décorcher cette image de bon père, tu vois, et de me dire, ok, d'un coup, d'un seul, bah, en fait, je suis moins bon père que quand j'étais père avec leur mère, quoi, tu vois. T'as la sensation que, enfin, comment t'as avancé toi justement sur cette histoire d'être un bon père depuis 3 ans?
Bah,
t'acceptes de merder aujourd'hui?
Déjà, je vais te citer Big Flo et Oli du coup, puisque c'est le groupe préféré de mon fils. Il y a pas de bon père, il y a que des gens qui font de leur mieux. c'est une phrase de Flo.
Ouais.
Ça c'est vrai. J'ai un père à moi qui disait tout le temps « tu seras toujours un mauvais père ». Donc j'ai toujours parti du principe que, quoi qu'il arrive, c'est une image impossible. Il y avait aussi une amie de, de ma femme qui s'appelle Emma Defoe, qui a fait un livre qui s'appelait Mauvaise Mère. Donc il y avait quand même un courant comme ça quand on a fait des enfants qui existent encore aujourd'hui, qui dit quand même que globalement il y aura des reproches qui seront faits. Donc moi ça du coup ça me détend un peu sur cette pression là. Ensuite je trouve que le fait d'être parent divorcé, ça permet quand même de mettre complètement ton idée de l'éducation à l'épreuve de tes enfants, puisque tu n'as plus personne qui peut t'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc c'est pas du tout inintéressant. C'est plutôt même pas mal. Pour savoir si oui ou non l'idée que tu te faisais de la manière de parler à tes enfants sans le filtre de cette identité de couple, elle est vraiment efficace ou pas. Donc je trouve ça plutôt enrichissant en vérité que qu'annihilant.
Ok. Je...
T'es d'accord?
Tu peux ouais, carrément. Mais tu vois, justement, pour revenir à cette histoire de... Tu m'as coupé par rapport au fait que j'avais pas de notes. De quoi?
De bon père? Non, pardon, je t'ai coupé par... Excuse-moi, vas-y.
Non, de bon père, oui. Qu'est-ce que je voulais dire sur bon père?
Non, parce que je croyais que tu disais ça pour revenir à cette histoire de...
Non, pour revenir à cette histoire de randonnée où t'es parti avec tes deux fils tout seul. Comment t'as la sensation de l'avoir vécu avec le recul? Parce que tu les emmènes là tous les deux, t'es tout seul avec eux, t'as leur charge. J'imagine qu'il y a une forme de danger aussi de « bah ok, on peut peut-être se planter, quoi, tu vois, et finir ouais. par être obligé de dormir dehors, et c'est chiant, quoi ». Avec le recul, comment tu l'as vécu, ce truc?
Alors, je crois déjà que je l'ai vécu avec beaucoup de fierté. Encore une fois, à cause de cette histoire de sens de l'orientation. Parce que c'était un vrai challenge pour moi de marcher 5 jours dans la montagne sans me tromper d'endroit. C'est quand même de la haute montagne. Hein. Mmh. Ok, c'est les tropiques, il fait moins froid, mais c'est quand même costaud. Les enfants, ils sont pas grands.
Ils sont oui.
Voilà, donc ça, c'était déjà de ce côté-là, il y avait cette fierté-là. Ensuite, c'était cool parce que quand tu marches, t'as ce roulis de la marche, un peu comme en bagnole. Tu te regardes pas, parce que chacun est en file indienne. Du coup, tu peux avoir des discussions qui sont des discussions assez intenses, tu vois. Souvent, en bagnole aussi, il y a ça, tu sais, tu roules, t'es en train de parler à la personne à côté de toi, mais les deux regardent devant. Du coup, tu peux te dire les choses vachement plus. Donc, j'ai un souvenir de ça, qui était vraiment, vraiment très intéressant. Et après, c'est une expérience qui nous a beaucoup plu. Mais tu sais, il y a quand même ce truc de... Moi, je me méfie quand même pas mal du plaisir que je prends avec mes enfants et de ce que c'est qu'être un bon père. C'est-à-dire, tu peux être un bon père sans prendre beaucoup de plaisir avec tes enfants ou en les voyant pas beaucoup. Être un bon père, c'est pas toujours juste vivre des bons moments en fait avec eux. C'est pas avoir besoin d'eux. C'est être capable de les élever dans tous les sens du terme élever. Et ça, ça peut être sacrificiel, ça peut ne pas être agréable. Moi, je vis vachement ça comme ça. Donc, et en plus, j'élève mes enfants pour qu'ils soient autonomes, quoi. Donc, je me méfie. Je dirais pas que je me méfie, mais disons que je ne fais pas des choses avec mes enfants uniquement parce qu'elles vont me faire plaisir, en fait. Donc là, c'était vraiment du plaisir, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours construit. Je construis pas tout autour du plaisir que je peux passer avec mes enfants. Parfois, ça me fait pas plaisir, mais je sais que c'est important pour eux. On y va, quoi. Tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire.
Si, mais... C'est quoi les aspects sacrificiels, par exemple? Ça fera pas de toi, hein, moi, mon père.
Non, bien sûr. Les aspects sacrificiels, mais c'est des petits trucs. Mais je sais pas, c'est déjà le temps que tu passes à les emmener, les ramener des activités périscolaires, extrascolaires, tu vois, les samedis matins où tu te lèves à 8h pour les emmener au foot, enfin l'emmener au foot, parce que il a un petit frère qui un jour râlera, je pense, qui un jour dira « Non mais attendez, vous rendez compte que moi tous les samedis matins je me lève à 8h30 juste pour aller voir mon grand frère jouer au foot, franchement, j'ai entendu des adultes me raconter ça. Regardez, ouais, mon grand frère il joue au hand, putain, il allait tous les samedis, c'était tellement chiant. » C'est vrai, c'est vrai.
Donc, mais c'est sûr qu'en plus, il ne peut pas rester seul à la maison avec sa mère à ce moment-là, quoi, ouais. Forcément.
Il est avec moi, ça c'est vrai que lui, et puis lui, il est le père de personne, lui, en plus, donc vraiment...
c'est sûr.
Le pauvre. Mais on trouvera un moyen de rattraper ça. Je sais pas, c'est passer du temps à jouer au Lego, alors que ça m'amuse pas du tout, en fait, moi, les Lego. Mais je trouve ça très important de passer du temps à jouer avec eux, donc je le fais.
Tu joues avec eux plutôt que d'être à leur côté, c'est ça, à ce moment-là?
Parfois, je joue avec eux à des jeux qui m'amusent pas, okay. Par exemple. Ma sœur, par exemple, elle m'a toujours dit, mais moi, je le fais pas, moi, ça me fait chier, donc je le fais pas. Et je pense que ça, par exemple, en te le disant, je me dis c'est peut-être un peu une erreur. Peut-être que je devrais pas, tu vois, jouer à des jeux qui me font chier. Je devrais juste faire que des trucs qui m'amusent avec eux, parce que je pense que c'est beaucoup plus finalement constructif que le contraire. J'arrive pas vraiment à voir, mais j'ai l'impression que c'est même une existence entière qui est quand même tournée autour d'une forme de sacrifice. C'est une gymnastique aussi du quotidien qui est beaucoup plus intense, où tu te lèves très tôt, où tu te couches aussi particulièrement tôt. C'est quand même centré autour de tes enfants, ça c'est sacrificiel.
Et justement, il doit y avoir un contraste aussi par rapport à ta semaine B, où d'un coup d'un seul tu retrouves une vie d'adulte là pour le coup.
Ouais, et alors... pour peu que tu aies mis beaucoup d'intensité dans ta semaine précédente, la semaine d'après, t'as surtout envie en fait de rien faire, de taffer, parce que du coup t'es très dispo pour le taf, ça c'est vraiment magnifique. Sauf que moi j'adore mon travail, je sais même pas si on peut te parler de travail, tu vois. J'adore faire de la musique, jouer de la musique, inventer des chansons, me retrouver avec des musiciens. Tout ce monde-là de la musique, c'est un monde que j'aime tant que vraiment. Le fait de pas avoir besoin de compter ses heures, de pas se sentir coupable de rester jusqu'à tard et tout. Maintenant que t'as vu, j'ai un studio dans lequel on est là.
Un beau studio, voilà.
Donc j'y passe beaucoup de temps et j'adore. Et après, du coup, j'ai souvent envie de rien d'autre que juste rentrer et pas avoir besoin de faire un dîner et pas avoir besoin de faire de machine. C'est ouf à quel point le panier à linge sale, il se remplit pas quand t'as pas d'enfant.
Ouais.
C'est incroyable. Et comme ça se salit pas chez toi quand t'as pas tes enfants. Genre, c'est propre pendant une semaine. Ça, c'est des petits plaisirs, ça.
Non, je voulais te parler de la quarantaine. Tu fais un titre sur la quarantaine. Ouais. Alors, t'imagines à quel point ton album... Parce que j'ai eu un peu cette chance de recevoir ton album cet été. Je l'ai saigné tout l'été, d'accord? C'est un peu doux-amer. Tu vois, moi, je l'ai vraiment vécu comme un truc un peu doux-amer, là où tes albums précédents, il y avait un truc très... je sais pas, il y avait un truc très énergique, si tu veux. Là, d'abord, en fait, je l'ai pris en pleine gueule et je me suis dit, putain, il parle trop, beaucoup trop de moi. C'est trop con, c'est trop chiant. J'ai pas envie. Et donc, mais ceci dit, c'est tellement beau que je l'ai écouté, tu vois. Et il y a ce titre, en fait, en particulier sur la quarantaine, qui s'appelle Quarantaine, d'ailleurs.
Ouais. Alors, quand tu sors un titre qui s'appelle Quarantaine en ce moment, je t'avoue que les gens pensent pas tout de suite à l'âge.
Alors, voilà.
Ouais. Ils disent, alors, donc ça parle du confinement. Non, 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 écoute-le, le titre, ça parle en fait de l'âge. Mais écoute, tu sais quoi, ça ressemble un peu à la discussion qu'on avait sur Parents.
Ouais.
Le morceau Parents qui parle donc des child-free. Maintenant, je connais le terme.
Bravo.
Je m'étais pas hyper documenté sur la question avant de faire le morceau. Quarantaine, c'est pareil. Je me suis pas vachement documenté sur la crise de la quarantaine avant de faire le morceau. Et moi, je me fais une idée de la crise de la quarantaine. Qui est que, quand tu vis, en fait, quand tu arrives autour de ces âges-là, tu te retournes en te disant, il me reste plus beaucoup de temps pour être jeune. Et puis j'ai fait beaucoup ce qu'il fallait, mais est-ce que j'ai fait ce que je voulais, tu vois? En gros, j'ai l'impression que la crise de la quarantaine, c'est ça. Et moi, j'ai quand même vachement fait ce que je voulais, tu vois. Donc j'ai l'impression d'être un peu à l'abri de cette crise-là. C'est de ça dont je parle, je pense, dans cette chanson. Même si... il est indéniable que la vie que tu mènes quand t'as 40 ans, elle est beaucoup moins libre, elle est beaucoup moins c'est juste libre déjà. C'est vraiment un terme important. C'est-à-dire, t'as beaucoup plus de devoirs que de pouvoirs. T'es beaucoup plus engoncé dans un tas de problématiques sérieuses d'adultes. T'es abîmé par des... Mais en même temps, quand tu prends du plaisir, il est beaucoup plus, il est beaucoup mieux, il est beaucoup, tu te connais beaucoup mieux, tu te marres mieux avec des gens que tu aimes mieux, et donc tu sors moins, mais quand tu sors, c'est beaucoup plus sympa, tu te connais, tu vois. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve un truc super agréable de la quarantaine, c'est à quel point tu te connais bien et tu sais dire non, mais ça, c'est pas pour moi, ça, tu vois. Ce genre de soirée, c'est pas pour moi. Alors que c'est vrai que à 20, 30 ans, tu continues un peu à te chercher. Parfois, tu mets du temps avant de te dire non, mais ça me rend malheureux, en fait, ça, tu vois. Et là, je trouve que 40 ans, t'as plus ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression de savoir un peu mieux ce qui me rend heureux dans ma manière d'être, mais effectivement dans une liberté qui est beaucoup plus restreinte, c'est clair.
Ok.
Bon, pas mal.
Non, mais c'est intéressant.
T'as pas ça comme sensation, toi ?
Si, mais c'est...
Tu te sens plus libre, toi, aujourd'hui ?
Oui, bah, enfin, moi, après, ma situation est particulière, c'est que j'ai vendu ma boîte, je me suis séparé, donc ma vie aujourd'hui, elle... Enfin, j'ai plus de mon ancienne vie que mes deux enfants.
Ouais.
C'est tout.
Ah oui, c'est ça.
C'est particulier.
Ouais, c'est vrai. Bah, t'as aussi tout ce que tu es, toi, de ton ancienne vie.
Oui, bien sûr.
Tout ce que tu te connais.
Bien sûr. Mais c'est ça aussi qui est, je trouve, génial à la quarantaine. C'est qu'il y a... Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. J'ai une forme d'apaisement par rapport à qui je suis, même si c'est pas aussi simple que ça, mais beaucoup plus cool que quand t'as... 20 ou même 30, quoi, tu vois, où j'avais la sensation que j'étais obligé de prouver plus de trucs, enfin, je sais pas.
Bah, carrément.
Comment tu le vis ?
Prouver, ouais. Se prouver.
Se prouver, ouais. Et prouver au monde extérieur.
Ah, ouais, ouais. Hein. Mais alors, tu l'as vendu quand, mademoiselle ?
Cet été.
Ah, c'est tout nouveau. Ah là là, c'est vraiment très récent.
Oui.
D'accord.
Donc, oui, là, donc d'accord. Tout nouveau. Parce que j'ai fait l'été avec mes filles de cette là.
Ouais.
J'ai fait un mois avec elle.
Ah ouais.
Et je suis rentré mi-septembre. Donc en fait, en vrai, c'est pas.
Moi, je croyais que c'était plus ancien. J'ai l'impression que c'était au début de l'année dernière que tu avais vendu, tu vois.
Non, non, non.
Ah ouais, d'accord.
Quelle vie.
Ah ouais, bienvenue. Donc là, c'est vraiment tout neuf, tout ça là. cette liberté, ça doit être un peu vertigineux. On parlait des grands virages. Bah,
voilà, ouais, tout à fait. Ça me parle quand tu me parles de vertige.
Ouais. Ouais. Vertige et solitude, du coup.
Pas mal de solitude, ouais. Ouais.
Qu'il faut accueillir, t'as compris ?
J'ai compris. Ouais.
Faut pas la renier. Ouais, c'est vrai.
Je me fais coacher. C'est trop bien.
Ah, c'est vrai? D'accord. Par un coach, c'est son
ouais,
nom.
Ouais, qui fait ça, qui me fout face à moi-même.
D'accord.
Ça accentue un peu le vertige, mais c'est cool parce que tu sais où tu plonges après.
Peut-être que t'avances plus vite.
Ouais, je pense.
Peut-être c'est un peu comme si t'avais une montée, il y a des escaliers ou un escalator. Peut-être que le coach, c'est l'escalator.
Tu l'as.
Je te propose cette métaphore-là, mais...
Mais c'est ton talent d'auteur, je veux dire. Le gars, il a la métaphore facile, oui, quoi. Ouais,
les métaphores. Faire très attention avec les métaphores, en général.
C'est vrai ?
Moi, je trouve, parfois, ça va un peu loin.
Comment ça ?
Moi, tu sais, il y a un mec, comme ça, il fait une métaphore, puis il tire sur le fil pendant 3 heures, tu comprends plus rien, tu vois. Il dit, mais attention, la carotte. Parce que la carotte, si tu la mets dans le presse-purée, ça devient une purée de carotte. Et si tu la manges froide ? Là, tu te dis, mais de quoi tu parles ? Parce que t'es pareil. Tu vois ce que je veux dire ?
T'es trop loin,
beaucoup trop loin dans ta métaphore. J'ai plus rien capté. Donc, se méfier quand même de la métaphore.
Bon, donc là, tu viens de sortir ton album. J'imagine, grosse promo ? Pas grosse promo, peut-être ?
Promo, ouais, carrément. Promo. Ouais, en tout cas, c'est la première fois qu'on sort un album après un disque d'or. Donc, c'est complètement différent, l'abord. On peut avoir, il y a plus de gens qui s'intéressent à ma musique, donc c'est...
Je savais même pas, la Femme Idéale a été disque d'or.
Mais ouais, regarde derrière toi, il est juste là.
No shit ! Putain, mais t'as percé, je savais pas à quel point t'avais percé.
Ouais, la Femme Idéale a été disque d'or, et du coup, ça a changé des choses. Pas le disque d'or en lui-même, mais tu vois, le fait qu'il y ait plus de monde qui s'intéresse à ma musique. Plus que la première fois que tu m'as reçu chez Mademoiselle en 2012.
2011.
Donc là, vous étiez 7. Donc ça fait qu'effectivement la promo est un peu plus intense. Et c'est très agréable parce que c'est pas non plus c'est pas oppressant. J'ai pas la pression du résultat non plus parce que je sors pas d'un disque de diamant ou je sais pas quoi qui doit être quelque chose de très oppressant. Là, il y a juste des gens qui me suivent et qu'en plus j'ai l'impression si tu veux moi j'ai jamais vraiment ouvert de grandes portes, tu vois, j'ai pas fait un single qui rentre en radio et qui a bastonné, ou j'ai pas fait une émission de télé ou quoi,
parce que tout ça c'est en radio quasi.
Ouais, voilà, mais pas sans radio, enfin sans single en radio en
oui,
tout cas.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais bon, j'ai quand même fait des petites émissions à droite, à gauche, mais surtout plein de concerts, en fait. 10 ans de concerts. 10 ans de concerts dans toutes les villes de France, plusieurs fois. Donc à force de jouer, de faire des premières parties, etc. Et de recruter, entre guillemets, les gens un peu les uns après les autres. Un par un, en tout cas. Ce qui fait que j'ai l'impression vraiment de je pourrais presque te nommer tous les gens qui écoutent la musique. J'exagère, mais tu vois, vraiment... Donc c'est un maillage qui est plus solide, certainement, que celui quand tu ouvres une grande porte.
Ouais, tu fais un gros buzz, et puis en fait, tout le monde a oublié ton nom dans...
Voilà.
Dans 3 mois, quoi.
C'est possible. Et tu vois, Grand Corps Malade, qui lui a fait un gros buzz avec... avec son premier album, ouais. Qu'il en a vendu des, je sais pas combien, mais des pelletés. Mais tu vois, ça marche plus du tout aujourd'hui.
On le connaît pas. D'ailleurs, tu dis
Grand Corps Malade. C'est qui ce gars-là? Ça, c'est bien. Bah, parce qu'il a pas fait le boulot.
il s'est pas fait chier à faire.
Après, qu'est-ce qu'il a fait finalement, quoi? 6 albums, 2 films, 1 livre. C'est pas.
Pas terrible, hein.
Je crois pas qu'il ait vraiment travaillé, ça, c'est bien. Et puis des tournées, oui, bon. Non, bah justement, non, bah, je fais de l'humour, mais Grand Corps Malade, justement,
c'est l'humour.
Ouais, c'était du second degré. Grand Corps Malade, je pense que le public qu'il a, il a surtout grâce au concert, parce que c'est quelqu'un qui a énormément joué au concert. Donc il a eu cette explosion avec ce premier album, mais après, il a jamais arrêté de faire des concerts et des concerts et des concerts. Et du coup, en fait, il a lui aussi un public, enfin lui beaucoup plus grand, beaucoup plus large que le mien, mais qui est aussi très solide, très très fidèle, et je trouve ça vraiment intéressant de fidéliser le public à travers des concerts. Donc là, c'est un peu dur de
oui,
pas
parce
pouvoir.
Parce que vous aviez prévu toute une ribambelle de concerts, notamment à Paris,
ouais, à l'Européen,
juste, voilà.
Ouais. Bah ouais.
En novembre. Bon,
ça commence vraiment en février, donc on.
Ok.
On croise les doigts, on se dit que peut-être que les spectacles assis en février, ça pourrait revenir.
Est-ce que tu vas faire comme La Princesse et le Dictateur, tu vas recréer tout un univers autour des concerts?
Je vais faire quelque chose où je chante sans micro, ouais, comme dans La Princesse et le Dictateur, c'est-à-dire où je chante libre et où je peux parler aux gens et je vais pas mal parler. Mais ça va pas être exactement la même histoire. C'est pas la suite de La Princesse et le Dictateur dans le sens dans La Princesse et le Dictateur, donc c'est le spectacle précédent.
Ouais. Que vous pouvez voir en live, que tu as sorti pendant le confinement.
Voilà.
Je mettrai un lien dans les notes si vous voulez écouter. Ouais. Si vous n'avez pas écouté, qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous devez écouter. Non, mais c'est vraiment cool en plus à voir et à écouter.
C'est un spectacle qui venait accompagner l'album, qui racontait le film que j'aimerais faire. Et donc je raconte ce film, et dans le film, je mets des chansons qui sont les chansons de l'album. Et donc c'était tentant de faire juste la suite de ces deux personnages en racontant leur histoire. Mais... j'ai décidé de partir sur un peu autre chose. Je te raconte pas tout, parce que ce serait dommage. Mais ça reste quand même quelque chose de très conté. Moi, j'adore la narration, globalement, sur scène. Je m'en sers beaucoup. Ça me plaît bien. Alors, ça n'est pas spontané. C'est-à-dire que c'est très écrit. Mais ça aussi, ça me plaît bien, de jouer des choses très écrites. Ça me ressemble, on en a parlé tout à l'heure.
Du mal à...
Ouais, mais même sans avoir du mal, ça me fait plaisir de jouer des choses que j'ai réfléchi avant, de les dire, d'y avoir pensé un maximum.
En tout cas, merci pour ça, merci pour ce moment, merci pour cet album, je te dis, qui m'a bercé de façon étrange cet été.
Doux amer.
Oui, c'est ça, un peu ça. Mais c'était sympa. Bon, je vous mettrai tous les liens si vous jamais voulez découvrir Ben. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous connaissez pas avant? N'importe quoi. Enfin, si vous suivez Fab Florent depuis des années, normalement vous devriez connaître Ben, quoi. N'importe quoi.
C'est vrai que ça fait quand même bientôt 10 ans. Il faudrait qu'on fête nos 10 ans.
Ouais.
Ouais. On fera une grande émission.
On refera une session où
les 10 ans de nous.
Ouais, voilà, c'est... Petite ref.
J'ai une chanson qui s'appelle comme ça.
Voilà, c'est ça. Si vous l'avez pas. Force à toi, Ben. Merci pour tout.
Merci, Fab.
À plus.
À plus.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau, qui le 11 août 2020 a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi. Et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.